Salut à toutes et à tous, c'est Manon, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les
villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale de Canal B que vous retrouvez chaque lundi et mercredi de 12h15 à 12h45. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en rediff les mardis et jeudis matin à 8h15, bonne écoute à cette heure matinale. Et aujourd'hui, on vous propose une émission un peu spéciale avec un format différent. À 4 jours du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre, nous avons décidé de réaliser deux interviews avec deux collectifs rennais. Nina, tu as interviewé Louise de Nous Toutes 35 et vous avez parlé de la mobilisation de dimanche prochain.
Oui, je les ai interviewées car elles font partie cette année de l'inter-organisation féministe qui organise une partie de la mobilisation ce dimanche. On a discuté ensemble des raisons pour lesquelles l'inter-orga appelle à la grève même si nous serons un dimanche et de ce qu'elles espèrent provoquer chez les femmes et minorités de genre, que celles-ci soient militantes ou pas encore.
Et toi Julie, tu t'es entretenue avec Léonie, une des organisatrices d'un tout nouveau festival féministe, Les Allumeuses.
Oui, Léonie, c'est une des quatre étudiantes de Sciences Po Rennes qui est à l'origine du festival qui aura lieu d'ailleurs le samedi 7 mars prochain au 360. Et donc vous pourrez y retrouver des artistes de tous horizons, donc il y a de la musique, du théâtre, des artisans. Il y a aussi des conférences parce qu'en fait l'objectif du festival c'est de questionner la place des femmes dans le monde de l'art.
Et pourquoi avez-vous décidé de faire appel à ces deux collectifs différents en amont de la journée de mobilisation nationale de dimanche ?
Moi j'ai voulu parler de Nous Toutes 35 parce que c'est un bon exemple de continuité militante. C'est une organisation qui est bien connectée avec d'autres structures féministes militantes. Et là elle agit avec l'inter-orga féministe. Et depuis plusieurs années, Nous Toutes suit les chiffres des féminicides et des autres violences faites aux femmes. Et donc cette année, leur constat, c'est ces violences sont en hausse et donc il faut continuer à se battre.
Moi, à l'inverse, j'ai décidé de mettre en avant une initiative plus récente parce qu'en fait, elle a été créée en septembre dernier pour soutenir le festival. Mais surtout parce qu'en fait, ce festival, il apporte un regard nouveau sur les étendues de la lutte féministe en mettant sur le devant de la scène la question de la présence et de la représentation des femmes et des minorités de genre dans le monde de l'art. Et en plus, la programmation, elle est très chouette.
Eh bien, merci pour ces précisions. Nous écouterons donc ces deux interviews juste après une pause musicale. I said I like the way she looked and then I said no homo. I tell a lie, I'm hypnotized by beauty that bestows her. Dress like a daydream, I'll get down in one. The ethereal reflection, the sun rises just for her. I said I like the company and then I said no homo. I tell her like she stopped time around her, I'm in slow-mo. Epitome of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. I like her face, but not in a gay way. No homo. I said I like the way she dressed and then I said no homo. Pre-Raphaelite celestial true painting from Picasso. An angel of the world, the trapped in purgatory. A test from heaven and I'm straight to hell. Said I like the way she talked and then I said no homo. Her eloquence, her resonance, the softest tone was spoken. Epitome of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo. I like your face, but not in a gay way. No homo. No Homo des Lamprini Girls sur le 94 FM et tout de suite retour en plateau avec Nina pour parler activisme et grève générale féministe avec le collectif Nous Toutes 35. Musique.
Bienvenue dans 3 en 1. Louise, tu es membre de Nous Toutes 35, un collectif féministe ouvert à toutes et à tous, dont l'objectif est d'en finir avec les violences sexistes et sexuelles, quelles qu'elles soient. Dimanche, vous marcherez avec d'autres associations féministes, notamment celle de la coordination interféministe pour la lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Alors, commençons par des constats. Chez Nous Toutes, vous revenez souvent sur des chiffres, les statistiques. Quel est le chiffre pour vous qui doit convaincre toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, maintenant, de rejoindre la mobilisation du 8 mars et peut-être celle d'après?
Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Un chiffre qui nous semble super parlant à nous toutes, c'est le nombre de féminicides de l'année dernière, qui est de 167 en 2025, qui est en hausse de 11% par rapport à 2023 et qui sont souvent dus à... c'est des conjoints, ex-conjoints qui ont assassiné du coup leur compagne. Et je peux même en rajouter un de cette année, au 15 février, il y en avait déjà 12 finalement. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont alarmants et qui sont pas du tout en baisse quoi. C'est ça qui est important en fait à noter, c'est qu'on pourrait penser qu'il y en a de moins en moins, mais pas du tout. Il y en a même de plus en plus, malheureusement.
Il y en a de plus en plus, et est-ce que vous pourriez nous dire combien il y en a eu à Rennes par exemple l'année qui vient de s'écouler ?
L'année dernière, en 2025, c'est 4 je crois, si je me trompe pas, qui ont lieu à Rennes. Ou dans la métropole très proche rennaise. Donc voilà, c'est tout au long de l'année. Je crois que le premier, c'était au printemps. Et puis, il y en a eu 3 autres par la suite.
Avec la coordination interféministe, vous appelez à la mobilisation dimanche et à la grève. Dans cet appel, vous revendiquez, entre autres, je cite, « l'augmentation de tous les revenus, des investissements massifs dans les services publics de la santé, du social et de l'éducation notamment, et le financement adéquat des associations féministes de terrain ». Vous revendiquez également l'abolition de toutes les lois racistes et islamophobes. Pour vous aujourd'hui et pour nous toutes 35, est-ce que la grève, c'est le meilleur moyen pour vous de se faire entendre et d'imposer du changement, et surtout pourquoi ?
Alors en fait, la grève générale féministe, c'est ce qu'on revendique depuis quelques temps maintenant à Nous Toutes 35 et avec la coordination féministe. C'est pour nous, c'est un outil déjà pour visibiliser le travail reproductif. Donc le travail reproductif, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros le travail domestique. C'est le travail qu'on ne voit pas, c'est la charge mentale liée aux enfants, au ménage, aux tâches ménagères de manière générale, qui est très 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 souvent portée par les femmes et les minorités de genre dans les foyers. Donc la grève générale féministe, elle sert à visibiliser ce travail reproductif-là, parce qu'en fait on arrête le travail salarié et le travail reproductif. Cette grève, elle sert aussi à articuler la question des violences sexistes et sexuelles et des violences économiques, qui sont en fait très très liées, parce qu'en fait on ne peut pas fuir un conjoint violent quand on n'a pas d'indépendance financière. C'est aussi pour instaurer un rapport de force qui inclut les minorités, et en fait ça nous permettra aussi de gagner finalement, parce que cette grève, si on s'arrête, tout le monde s'arrête, tout s'arrête. Et donc si tout s'arrête, ben du coup on va peut-être nous écouter quoi. Et en dernier, ça nous sert aussi à nous organiser et à réfléchir au monde qu'on veut créer, finalement. Donc tout arrêter pour être ensemble, en collectif, réfléchir au monde qu'on veut et faire entendre nos voix à toutes et à tous, toutes les personnes du coup, qui subissent de plein fouet les violences patriarcales.
Et alors, est-ce qu'il y a une suite prévue à cet appel à la grève-là ? Parce qu'on peut se dire, faire la grève une fois, ce ne sera pas suffisant. Quels autres leviers on a au niveau national pour faire pression sur le gouvernement, sur les différents ministères ? À quel moment, en gros, on va passer à une grève féministe tous les lundis ?
Ah bah ça, c'est un peu notre rêve. C'est juste qu'en France, on a un peu du mal à la construire. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus connu, reconnu. Enfin, c'est beaucoup plus classique, je pense en Espagne, par exemple. Même il y a eu des grèves de un jour, par exemple en Islande, où ça a arrêté totalement le pays et elles se sont fait entendre. Ça a mis plusieurs années avant qu'il y ait des vrais changements au niveau des lois, etc. Mais quand même, ça a marché. Donc déjà, même un jour, en fait, si on arrive à tout s'arrêter un jour, déjà c'est pas mal. On aimerait bien le faire plus longtemps, mais c'est difficile à construire. Il faut construire ça avec les syndicats, etc. Et ça peut prendre du temps, finalement.
Qu'est-ce qui nous manque alors aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que ce soit réalisable et faisable dans peut-être les mois à venir ? Est-ce qu'on peut pas se dire que les femmes pourraient réussir là où tous les autres syndicats, pour l'instant, ces dernières années, ont échoué ?
Ah, honnêtement, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Je pense que ce qui nous manque déjà, c'est de prendre conscience, en fait, justement, de ce travail reproductif-là qu'on fait en permanence. on le sait, mais on le fait quand même, en fait. Et ce serait de dire, mais en fait, non, dimanche 8, non, c'est pas moi qui fais la vaisselle. Non, c'est pas moi qui vais changer la couche de mon fils ou de ma fille. C'est à toi de t'en occuper, parce qu'aujourd'hui, je fais grève, j'ai envie de prendre ce temps pour aller voir mes copines, mes sœurs, mes amis, et réfléchir à un nouveau monde, quoi. C'est vraiment l'assumer, mais c'est dur à assumer quand on est tellement conditionné, en fait, à faire ce travail-là, que ce soit le travail salarié, mais le travail à la maison. En fait, on est tellement habitué à le faire. Déjà, mettre en grève, au-delà de la grève féministe, c'est pas toujours évident. Mais pour la grève féministe, les femmes, on est tellement habituées à se dire que c'est à nous de porter toute cette charge qu'en fait, on prend sur nous et on le fait quand même. Donc, c'est vraiment une prise de conscience et ça peut venir par plein de moyens différents. Ça dépend. Par exemple, dans les autres pays, il y a eu plein de choses qui ont pu amener des grèves féministes et féminines. Je sais que ça peut être une injustice, ça peut être justement le féminicide de trop, ça peut être plein de choses. Après, c'est à nous justement d'informer sur ce que c'est, d'informer sur... pourquoi c'est important de se mettre en grève et justement de faire se rendre compte en fait de cette charge de travail qu'on a tout le temps sur nous et qu'on aimerait bien du coup arrêter au moins une journée.
Donc ça commencera en partie chez vous, dans vos foyers, si vous voulez y participer. Nous Tout 35 et les autres associations signataires de cet appel à la grève et de la mobilisation du 8 mars 2026, vous parlez d'une grève féministe internationale pour battre l'extrême droite. Est-ce que c'est ça le maître mot de la mobilisation cette année ?
Oui, ça fait déjà quelques temps qu'on se bat contre l'extrême droite, qui se bat activement contre nos droits, les femmes et les minorités de genre. En fait, on n'a pas envie de servir leur agenda réactionnaire. On n'est pas là pour ça. La récupération des luttes féministes, c'est un scandale. Ils sont clairement pas de notre côté. Et du coup, forcément, on se positionne contre eux. Et du coup, notre mobilisation cette année, elle est vraiment axée sur cette lutte-là.
À Rennes et en métropole rennaise, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des luttes locales féministes qui sont en cours, que ce soit à Rennes ou dans les villes autour ?
Alors oui, bien sûr, il y a déjà, par exemple, des associations, je pense au planning familial ou à ISKIS, qui est l'association principale LGBT de Rennes, qui ont eu des grosses baisses de subventions. Donc déjà, juste aller leur apporter du soutien, c'est déjà énorme, soutien financier et ou moral. Il peut aussi y avoir plein de choses. Il y a un nouveau collectif, par exemple, qui vient d'arriver dans le 35 à Barne-Bretagne. On espère que nos camarades vont réussir à faire plein de choses, aller aux événements. En fait, il y a plein de choses qui se passent. Ce qui est important, c'est de se rester informé. Nous, je sais qu'on partage toutes nos informations et tous nos événements sur notre page Instagram, notre page Facebook, et tous les collectifs font globalement de même. Donc n'hésitez pas à venir. Déjà, ça nous fera super plaisir. Et en plus, en général, on essaie de rendre ça un petit peu sympa pour pas que ce soit trop sérieux et trop triste finalement.
On va déjà arriver à nos deux dernières questions car le temps nous est compté. Au-delà des combats que vous avez déjà évoqués, donc qui sont les raisons de la mobilisation du 8 mars, il y a un constat qui est fait de plus en plus, c'est la montée du masculinisme et des violences de toute forme sociétale qu'il génère. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a alerté dans son dernier rapport de janvier sur la nécessité, selon lui, de former les forces de sécurité intérieure à la détection des signaux du terrorisme masculiniste. L'association SIDAction également fait de son côté le lien entre la montée de ces discours masculins et l'explosion ces 10 dernières années des découvertes de séropositivité chez les 15-24 ans. Bref, la violence s'organise de leur côté. En face de cette montée de la haine, est-ce que la mobilisation féministe s'accroît ? Est-ce que vous avez plus de bénévoles, plus de militantes dans vos rangs ou pas ?
Alors oui, nous, il y a quand même pas mal de personnes qui sont intéressées par rejoindre notre collectif. On a aussi d'autres personnes qui le quittent pour plein de raisons, avoir moins de temps, etc., trouver un travail, avoir un enfant, c'est tout à fait compréhensible. Mais en tout cas, déjà, dans nos mobilisations pour le 8 mars, je l'avais noté, hein, en 2025, on était 8000, en 2024, on était 6000. En 2023, on était 10 000, mais c'était pendant le mouvement social des retraites. Et l'année d'avant, on était 1500. Donc en 3 ans, on est passé de 1500 à 8 000 personnes. Donc en fait, il y a quand même une montée en fait, du féminisme. On surfe clairement sur la vague MeToo. En fait, les gens, il y a quand même une prise de conscience générale. Et mais du coup, le problème, c'est que de l'autre côté, bah, y a plein d'hommes qui estiment que la société s'acharne contre eux. J'ai même le chiffre, 57% des hommes de 16 à 34 ans trouvent que la société s'acharne contre eux. Donc derrière ça, y a une espèce de colère en fait qui monte et on les retrouve du coup dans nos mobilisations, mais aussi dans nos collectifs. Et tant mieux si cette colère peut être utilisée à bon escient.
En conclusion, vos rangs s'étoffent, mais il y a quand même besoin de plus en plus de personnes, car le clivage sociétal sur ces questions-là grandit. Et peut-être, petite dernière question en vue de la mobilisation de dimanche, est-ce que vous avez besoin d'aide de la part de citoyens, citoyennes rennaises, et sur quel sujet ?
Alors, pendant la mobilisation, on aura sûrement besoin de coups de main pour des trucs très logistiques, comme ranger une table, ranger des choses, porter des choses. N'hésitez pas à venir nous rencontrer directement le jour du 8 mars. Certaines de nos camarades sauront vous aiguiller vers les tâches dans lesquelles on a besoin d'aide. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre notre collectif. On fait souvent des plénières qu'on appelle des réunions publiques où on accueille les gens pour leur expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est sur les réseaux sociaux à chaque fois. Et nous, ça nous fera super plaisir. Déjà, juste venir faire un petit coucou, nous dire que vous êtes contents, ça fait super plaisir parce que c'est des journées qui sont intenses pour nous, fatigantes, mais incroyables. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit coucou, un petit soutien, un petit coup de main pour juste « Ah bah j'ai juste rangé ce truc-là ». C'est super. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir.
Vous l'avez entendu, auditeurs, auditrices de Canal B, Nous Toutes 35 et les autres organisations féministes du département vous attendent ce dimanche 8 mars pour la mobilisation, mais aussi en amont et en aval si vous voulez vous mobiliser autour de ces questions-là. Merci beaucoup Louise de Nous Toutes 35 d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Drama en featuring avec Bagarre sur le 94 FM. Et comme le dit si bien l'humoriste, la liberté se trouve dans la bimbothérapie. Si cette manière de se réapproprier les insultes est commune pour les minorités, c'est une stratégie qu'utilisent aussi les organisatrices du festival Les Allumeuses. Alors retour en plateau avec Julie qui s'est entretenue avec l'une d'entre elles, Léonie, pour parler de la place des femmes dans le monde de l'art.
Amis féministes et au-delà même, vous a-t-on déjà traité d'allumeuse ? Ancien synonyme, enfin ancien, tout est relatif, du mot prostituée, il est aujourd'hui utilisé dans le langage populaire pour désigner une femme ayant un comportement manifestement destiné à susciter un vif désir. Si oui, eh bien je vous invite à vous rendre au festival du même nom, Les Allumeuses donc, qui aura lieu le 7 mars prochain au 360 à Rennes. Pour cette première édition, cette association féministe de Sciences Po Rennes a décidé de réunir des artistes de tous horizons, dessin, danse, humour ou encore musique. Et aujourd'hui, dans 3 en 1, nous recevons Léonie, l'une des 4 organisatrices à l'origine du festival, pour parler du thème central de l'événement, la place des femmes dans le milieu artistique. Léonie, bonjour.
Bonjour.
Pour ce début d'interview, je voulais revenir sur le nom du festival qui est Allumeuse. Donc on l'a évoqué en intro dans le langage populaire, c'est un terme qui est ouvertement insultant pour les femmes. Est-ce que du coup l'utiliser, c'est une manière un peu de se le réapproprier et de le désarmer aussi ?
Exactement, oui. On a beaucoup réfléchi trouver un nom d'un événement, c'est pas simple. Mais quand on a pensé à ce nom, on a un peu hésité parce qu'on avait peur que ce soit un peu à double tranchant et d'avoir des retours négatifs. D'ailleurs, on a eu essentiellement masculins des retours qui étaient un petit peu choqués quand ils voyaient le nom du festival. Mais pour nous, c'était hyper important de dire on le prend quand même et ce côté subversif, on va le garder. Et ça représente bien cette réappropriation de l'art qui est de changer les imaginaires qu'on a autour du corps féminin notamment, qui est largement représenté dans l'art. Donc c'était hyper important de trouver une symbolique qui véhicule plein d'imaginaires, justement. Et l'insulte de l'allumeuse, elle est hyper parlante aussi pour compléter, parce qu'elle véhicule c'est vraiment un symbole de l'érotisation suprême de la femme et dans le même temps de la justification de la violence sur le corps de la femme, puisque c'est elle qui susciterait le désir en jouant de ses appâts, en provoquant l'homme, etc., qui est faible un peu à la chair féminine. Et donc après de justifier et en plus de romantiser, parce que la littérature par exemple romantise énormément toute la violence qui est faite aux femmes. Donc cette insulte, elle véhicule beaucoup, beaucoup, beaucoup de symbolique et c'est hyper important de se la réapproprier pour que justement revendiquer le fait que les femmes ce sont pas des objets mais ce sont des sujets et qui peuvent aussi exprimer leur propre vision de l'art, etc., et sortir en même temps par exemple d'une autre symbolique qui est moins sexualisée mais qui est la muse, qui va aussi dans cette position de passivité de la femme. Et donc voilà, l'allumeuse était vraiment un titre qui pouvait faire le lien entre la thématique du féminisme et l'art, justement.
Justement, ce terme aussi, il est utilisé par une autrice rennaise, du coup, qui a écrit le livre Allumeuse, jeunesse d'un mythe, et qui est d'ailleurs programmé au festival. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, justement, l'autrice Christine Van Gien a écrit sur ce concept de l'allumeuse et elle retrace un petit peu le parcours à travers l'histoire de ce mot, comment il a été construit, comment en fait il projette tout un imaginaire et que c'est pas quelque chose de réel. En fait, c'est toute une construction d'imaginaire qui construit notre façon de voir la société et de nous voir en tant que femme. Et donc, elle va revenir là-dessus. Justement, elle inaugure l'événement à 14h. 14h le samedi pour justement retracer tout ce parcours.
Et donc l'association, elle a été créée à Sciences Po Rennes en début d'année pour soutenir le festival. Et du coup, derrière l'organisation, il y a toi, mais il y a aussi Lily, Émilie et Barbara. Pourquoi est-ce qu'ensemble vous avez ressenti cette volonté de créer un événement comme celui-ci ?
Alors, on est étudiantes et on a toujours eu chacune un peu de nos côtés des aspirations à nous investir sur les questions féministes parce que ça nous paraît hyper important et surtout en tant que femme et que jeune étudiante. Et puis on a chacune aussi un peu des expériences dans l'art, que ce soit de la danse, de la musique, du dessin, etc. Donc on a pu expérimenter que l'art en fait est un milieu largement normé par des normes masculines, etc. Et donc on a toutes ressenti ce besoin de le faire à travers un festival. En plus, le festival donne un côté un petit peu ludique, festif à ça, derrière un peu le mythe du féminisme qui est boring et qui est rabat-joie. Donc ça permettait d'accumuler tous ces paramètres en même temps.
Et du coup, pour vous, c'est quoi le public cible du festival ?
Le public cible, je ne sais pas si on a un public cible. Évidemment, par exemple, on a choisi le prix libre parce qu'on voulait que ce soit hyper accessible, notamment en tant qu'étudiante. On est consciente que le prix peut être un paramètre pour venir à ce genre d'événement. L'accès à la culture, il est compliqué, il n'est pas égalitaire, etc. Donc c'était important d'avoir ce prix libre, mais c'est adressé à tous les publics et tout le monde est le bienvenu.
Et donc, dans votre programmation, on l'a évoqué, il y a des artistes de tous horizons présents sur des stands, lors d'ateliers et de conférences. Est-ce que tu peux nous parler d'une intervenante du festival et pourquoi vous avez fait le choix de l'inviter ?
Alors par exemple, on va avoir deux metteuses en scène qui sont aussi rennaises, qui sont Marine Bachelot Nguyen, pardon, et Frédéric Mingan. Et donc elles travaillent toutes les deux donc dans le domaine théâtral et elles vont parler de comment on peut incorporer les pratiques féministes dans la pratique du théâtre pour le coup, à la fois dans le contenu des œuvres et aussi dans la façon d'aborder et de créer les œuvres. Et elles ont voulu le faire aussi en collectif parce que c'était pour elles important de montrer que c'était un travail collectif. Et en fait, le but aussi, c'est de montrer que, justement, à l'échelle rennaise, on a essayé de trouver des intervenantes qui sont rennaises. Il y a beaucoup, en fait, de propositions. Donc, contrairement à ce qu'on pense, que tous les mythes de la cancel culture, etc., que le féminisme, il appauvrit, qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rien faire et que ça réduit la création, eh bien non, on vous démontrait qu'à l'échelle rennaise, par exemple, il y a tout un panel de propositions artistiques, que ce soit dans l'illustration, le théâtre, les livres, etc., qui peuvent enrichir nos imaginaires.
Et du coup, il y a vraiment cette volonté de travailler au local, en fait.
Oui, exactement. C'est important de valoriser en fait ce qui est développé et de donner des opportunités aussi d'une scène pour des publics qui sont souvent invisibilisés. Et puis on n'est pas les seuls à le faire. Il y a d'autres festivals féministes à Rennes qui sont régulièrement comme Aux Parleuses, Dangereuses Lectrices, etc. Mais c'est important de redonner plusieurs fois des scènes à disposition.
L'objectif du festival, donc je cite, est de bousculer le regard dominant sur l'art et d'enrichir l'imaginaire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui le monde de l'art, il a besoin d'un changement de perspective et pourquoi il a besoin d'une optique féministe ?
Alors l'art, comme un petit peu tous les domaines de la société, il est largement construit par des normes masculines. On pense souvent que c'est un espace qui serait neutre et qui serait pas le reflet de la société, mais au contraire, il l'est. Et quand on regarde bien que dans les musées, il y a très peu d'artistes femmes. Et donc on est habitué en fait à ces modèles surtout de représentation du corps féminin. C'est tout sous ce concept de male gaze, où en fait non seulement les femmes vont pas être représentées dans les cercles d'artistes, mais en plus on va s'approprier leur corps, y projeter des fantasmes masculins, d'où par exemple tout le concept de la lumeuse, etc. Comme on peut le voir dans les musées, les femmes, elles sont souvent représentées nues, etc. Et on construit cette certitude que les femmes qu'on va sexualiser leur corps et qu'on peut un peu en faire ce qu'on veut. Et donc c'est hyper important de se réapproprier ce terrain-là et de montrer en fait les femmes représentent bien plus que juste un corps.
Donc si je comprends bien, l'idée du coup c'est de réinvestir un peu ces espaces, mais pour que la place des femmes elle y soit pleinement légitime. Et aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qu'on a besoin concrètement pour renouveler ce milieu de l'art ?
Alors déjà, de davantage accueillir donc les publics qui sont largement minorisés. Et puis aussi, en termes de la représentation, en fait, c'est vraiment le mot-clé. Par exemple, on a aussi une peintre qui va venir, qui est rennaise, qui s'appelle Odique Rosen, et qui va faire une petite intervention autour de son exposition. Elle va parler notamment de la censure, en fait, par exemple, de tout ce qui est les règles, l'accouchement. On est habitué à voir du sang partout sur les scènes de guerre, dans les tableaux, les musées. Mais par contre, pour par exemple les menstruations, c'est un énorme tabou. On a tout le mouvement en fait dans la peinture aussi, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais où des femmes vont peindre avec leur sang menstruel ou essayer de représenter un petit peu ce côté-là du sang qui est hyper tabou. Et en fait, c'est tout un côté, en invisibilisant les femmes, on invisibilise tout un côté des réalités que vivent tout un tas d'individus.
Donc je le rappelle, le festival, il a lieu le 7 mars. Donc c'est un jour avant la grève générale et féministe organisée par l'intersyndicale féministe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette date et pas celle du 8 mars ?
On a choisi cette date aussi parce que celle du 8 mars, c'est une grève qui est une grève, enfin c'est un appel aussi à la grève nationale et avec beaucoup de manifestations, avec beaucoup d'événements déjà. Donc on a préféré faire ça la veille avec une forme de teasing entre guillemets pour avoir aussi un week-end parce que on le rappelle toujours, mais le 8 mars c'est pas seulement le 8 mars en fait, c'est toute l'année. Donc aussi simplement de faire d'autres propositions la veille et de pouvoir avoir un week-end 100% féministe.
Et pour finir, qu'est-ce que vous attendez de l'événement et qu'est-ce que vous attendez de l'après aussi ?
L'après, c'est difficile à prévoir vu que c'est la première édition, donc on est un petit peu enthousiaste, un peu stressé aussi de savoir comment ça va se passer, etc. Mais l'après, le but c'est que ça se pérennise et que l'association elle continue d'année en année, qu'elle se passe aussi d'étudiant en étudiante et pas seulement parce que on ne travaille pas qu'avec des étudiants, on travaille par exemple avec l'association Cuné de mamans de Villejean par exemple. Enfin, c'est que l'événement puisse être repris et que justement à chaque fois même en termes de programmation, on était limité parce que c'était seulement une journée. On voulait être modeste pour la première édition. Mais le but, c'est que plein d'artistes soient accueillis les années prochaines.
Merci beaucoup Léonie d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de 3 en 1. Je le rappelle, le festival Les Allumeuses aura lieu le samedi 7 mars prochain au 360. Merci à toi.
Merci.
3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Louise de Nous Toutes 35 et Léonie des Allumeuses d'être venues sur le plateau de 3 en 1. On se retrouve lundi prochain avec une émission spéciale municipale. En attendant, vous pouvez nous écouter en rediff ou en podcast sur le site canalb.fr. En tout cas, bonne journée à vous et surtout, je vous souhaite une joyeuse grève générale et féministe.